Bonsoir. Soyez les bienvenus dans la chapelle du cœur de Jésus, enfin des apparitions du cœur de Jésus à Madrid Marie. Et aussi, vous, chers auditeurs de Radio Espérance, merci de suivre avec nous ce soir cet enseignement qui va introduire leur sainte de ce mois d'août 2017. Ce soir, je vais vous proposer de nous laisser guider par Saint Claude de la Colombière pour voir un peu ensemble le lien entre leur sainte et la diffusion du culte du cœur de Jésus dans le monde. Comment ce confesseur de Marguerite Marie a compris ce message du cœur de Jésus et de la façon dont lui il a essayé de mettre en pratique ce que Jésus, en fait, lui-même voulait donner au monde. Alors nous savons bien que Saint Claude est arrivé ici à Parlémonial après la deuxième grande apparition que Sainte Marguerite Marie a eue et qui est représentée par la fresque ici. Et quelques semaines après, il a pu bénéficier, je dirais presque en direct, du récit de la troisième grande apparition, à la fin de laquelle Jésus disait à Marguerite Marie, qui lui posait la question « comment est-ce que je vais pouvoir, moi, une chétive créature, une pauvre pécheresse, accomplir ce dessein que tu me demandes, Seigneur ?» Et « donnez-moi le moyen de faire ce que vous me commandez, » dit-elle. Et c'est à ce moment-là que Jésus lui dit « adresse-toi à mon serviteur », donc il pensait au père de la Colombière, et dis-lui de ma part de faire son possible pour établir cette dévotion et donner ce plaisir à mon divin cœur. Et écoutez bien ceci, qu'il ne se décourage pas pour les difficultés qu'il y rencontrera, car il n'en manquera pas. Mais il doit savoir que celui-là est tout puissant, qui se défie entièrement de soi-même pour se confier à moi. » Bien sûr que Marguerite Marie est venue très vite, juste derrière ici, dans le confessionnal, là, pour raconter cette troisième grande apparition qui commence, vous savez comment, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. » Alors évidemment que Saint Claude était complètement bouleversé lui-même, et surtout quand il a entendu ces paroles « Dis-lui de ma part », il a été sûrement pris d'émotion en entendant ce message du ciel pour lui, quoi. Évidemment qu'il avait déjà lui-même vécu une union, un respect, une dévotion toute personnelle déjà envers le cœur de Jésus, mais à partir de ce moment-là, il a compris que sa mission est vraiment très importante. Et du coup, on va savoir cela un peu plus tard, quand il est parti à Londres, au moment où il a écrit les notes d'une retraite en janvier 1677, c'est-à-dire quelques mois après son départ de Parlémonial, en mission à la cour de Londres. Et il avait donc noté cette grande apparition, la troisième, dans ses retraites, mais juste avant, il avait précédé ce récit en écrivant ceci. Donc il était à Londres, quelques mois après son arrivée là-bas. « J'ai reconnu que Dieu voulait que je le servisse en procurant l'accomplissement de ses désirs, touchant la dévotion qu'il a suggérée à une personne, Marguerite Marie, à qui il se communique fort confidemment, et pour laquelle il a bien voulu se servir de ma faiblesse. » Vous voyez la conscience qu'il avait prise de cette mission qui lui est donnée. Alors il dit ceci, « Je l'ai déjà inspiré, cette dévotion au cœur de Jésus, je l'ai déjà inspiré à bien des gens en Angleterre, et j'en ai écrit en France et prié un de mes amis de la faire valoir à l'endroit où il est. Et il y sera fort utile. » Et puis la phrase continue. C'est pour dire déjà, voilà, cette démarche que Saint-Claude avait commencé à faire. Cependant, voilà, nous n'avons pas exactement aujourd'hui cette lettre. Hein, il dit, il a écrit en France. Ben, malheureusement, on ne sait pas exactement à qui et quoi concrètement il a envoyé comme courrier. Puis on donnerait beaucoup de l'avoir, n'est-ce pas, hein? Mais on sait bien que à travers cette, je dirais, discrétion, en fait, eh bien, soit l'ami en question, eh bien, il n'a pas conservé cette lettre-là, ou on n'a pas jugé bon de la communiquer, hein, pour être publiée. Pourquoi? Parce que, justement, Saint-Claude était très prudent, en fait. Il a eu des préventions pour de répondre, en fait, ses désirs de son maître, de Jésus, dans un contexte très particulier. Alors, pourquoi ces préventions? Pourquoi cette discrétion aussi? Eh bien, parce que, comme il arrive aux époques où se développent les hérésies, des erreurs de toutes sortes, les hommes de l'Église, qui ont la mission de défendre la tradition, hein, et la doctrine vraie, hein, eh bien, se tenaient en garde contre les nouveautés. Et dans 20 ans, donc plus tard un peu, par exemple, quand le provincial de Lyon, Gabriel Jacob, avait envoyé un ouvrage qu'on appelait « Du culte très saint envers le cœur de Jésus » qui a été écrit probablement par un certain père de Galifée, qui était un des élèves de Claude. Il a envoyé donc cet écrit à Rome pour être censuré. Eh bien, ils ont reçu une réponse qui disait ceci, que je cite, réponse de Rome, hein. Nous reconnaissons que ce livre est composé avec science et talent. Et on ne peut plus apte à développer la dévotion et le culte du Sacré-Cœur. Cependant, nous pensons tous qu'il vaut mieux que ce livre ne soit pas imprimé, ni que les nôtres se chargent de patronner cette cause. Bien moins encore que votre paternité intervienne pour obtenir que la fête au Sacré-Cœur, hein, soit accordée au rite solennel pour toute l'Église. Surtout, dit le texte, hein, ce document important, hein, surtout à une époque où tant de dévotions nouvelles surgissent chaque jour et sont impitoyablement rejetées par l'Église. Donc voilà, l'Église était prudente. Pas question de culte du Sacré-Cœur public, quoi, voyez, en quelques mots. Et donc Saint-Claude était conscient de cela déjà, et justement dans ce pays d'Angleterre où il était envoyé, eh ben là il pullulait les sectes protestantes les plus disparates. Alors les catholiques ne pouvaient qu'être plus en défiance encore contre toute nouveauté religieuse. S'en tenir aux formes anciennes de piété leur paraissait naturellement un gage d'orthodoxie et de sérénité et de sécurité en même temps. Je me permets ici de citer tout cela, ce résumé, ces remarques, d'un livre sur Saint-Claude de la Colombière écrit par Jean-Georges Guiton à partir de la page 154, qui résume un peu, voilà, ce contexte dans lequel Saint-Claude vivait et donc la façon dont lui il a pu trouver le moyen pour répondre quand même à l'appel du Seigneur. Alors, quand il s'agissait donc de communion des premières vendredis du mois, hein, heure sainte, ou même, hein, amende honorable, ouais, la réparation et tout cela, comment espérer ce surcroît alors que tant de pratiques essentielles étaient déjà à l'abandon? On ne communiait pas, on n'était pas très fervent par rapport à l'Eucharistie surtout. Quant à solliciter à la gloire du cœur de Jésus l'institution d'une fête spéciale qui a été demandée donc à cette religieuse en France, pouvait-on y songer, hein, que ce soit fait en Angleterre avant que la France elle-même eût donné l'exemple? Encombré de tant d'obstacles, nous voyons comment le champ d'apostolat de la Colombière apparaissait bien ingrat pour l'exécution de ses desseins. Et l'on comprend quand il a pu s'écrier « Que ne puis-je, mon Dieu, être partout et publier ce que vous attendez de vos serviteurs et amis. » Du coup, qu'est-ce qui restait à Saint-Claude dans ce contexte de persécution? Les entretiens de direction, enfin ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel, et bien sûr avec une infinie prudence, l'enseignement public dans cette chapelle de Saint James, là, près de la cour d'Angleterre, de Londres. Donc, ce que furent ces entretiens, leur influence, la renommée qu'ils valaient à leur auteur, un épisode raconté dans la vie d'un martyr franciscain, le père Wall, nous le fait entrevoir. Un témoignage donc de ce père franciscain qui, à la tombée de la nuit, la veille de la Toussaint 1678, donc 2 semaines juste avant l'arrestation du père Lacolombière. Ce père, il est interdit de séjour en Angleterre, comme tous les prêtres anglais. Alors ce religieux, sentant gronder la persécution, a profité des ténèbres pour s'introduire chez le prédicateur du palais Saint-James. « Père, déclare-t-il, je suis un pauvre mineur de Saint-François qui vient chercher auprès de vous la force et le conseil du cœur de Jésus, car nous savons partout dans le pays que vous en êtes l'apôtre. » Alors, le père de la Colombière l'accueille, il félicite son visiteur en pleine nuit, il le félicite de venir chercher la force à sa source véritable, qui est le cœur de Jésus. Puis il ajoute ceci, « Personne ne peut pénétrer les mystères de ce cœur sans goûter au calice d'amertume où Jésus s'abreuva si pleinement à Gethsémani. » Personne ne peut comprendre ce qu'il y a dans le cœur de Jésus tant qu'il n'a pas pénétré dans la passion intérieure de Jésus, en fait. « Oh, si je pouvais aussi recueillir cette grâce précieuse que vos prêtres anglais sont en train de moissonner dans ce pays des croix. » Puis plus tard, Claude a laissé exprimer ce désir de lui-même mourir martyr comme les autres. Puis en fait, on sait bien que finalement, il n'est pas mort martyr, il est mort crachant le sang, malade de tuberculose ici, à quelques centaines de mètres. Et un peu plus tard, quand... Donc le père Wall franciscain a célébré la messe au petit hôtel du Sacré-Cœur qui était érigé justement par le père Claude dans cet oratoire-là. Et bien, seulement à l'aube, ils se sont séparés à l'aube de la Toussaint. Et un peu, quelques jours encore après, rendant compte de cette entrevue, le franciscain disait « J'avais auparavant entendu parler déjà du fameux jésuite, Claude la Colombière. Quand je fus en sa présence, je crus avoir affaire à l'apôtre Saint-Jean revenu sur terre pour rallumer le divin amour au feu du cœur de Jésus. » Le portrait de Claude, c'est ça. Son attitude me parut tout à fait celle que devait avoir l'apôtre au pied de la croix quand la lance perça le côté de son maître et révéla le tabernacle de son ardente charité. Mais à travers ce témoignage, vous voyez, on imagine en fait à quel point Saint-Claude avait conformé toute sa vie en fait et dédié, consacré son être à ce cœur de Jésus. Et quand il dit qu'il faut absolument entrer dans les sentiments du cœur de Jésus, tel qu'il les a vécus quand il était à Gethsémani, il avait sûrement en tête justement ce récit où Sainte Marguerite Marie lui a fait part de, je dirais, l'origine de cette heure sainte que nous célébrons ici. Et c'est à partir de là, en fait, que Claude s'est dit, eh bien, pour répandre le culte du cœur de Jésus, il faut commencer par ça. C'est-à-dire faire comprendre aux chrétiens ses sentiments intérieurs du cœur de Jésus quand qu'il était en agonie. Donc voilà, écoutons maintenant justement ce récit que Sainte Marguerite Marie a voulu nous laisser de cette dans cette deuxième grande apparition où elle a eu justement la demande expresse de la part de Jésus lui-même de l'institution de cette heure sainte. C'est un récit un peu long. Écoutons-le patiemment, même si nous le connaissons déjà, et accueillons-le de la part de Jésus lui-même.
Ce Sacré-Cœur m'était représenté comme un soleil brillant d'une éclatante lumière dont les rayons tout ardents donnaient à plomb sur mon cœur, qui se sentait d'abord embrasé d'un feu si ardent qu'il me semblait m'aller réduire en cendres. Et c'était particulièrement en ce temps-là que ce divin maître m'enseignait ce qu'il voulait de moi et me découvrait les secrets de cet aimable cœur. Et une fois, entre les autres, que le Saint-Sacrement était exposé, après m'être senti retirée toute au-dedans de moi-même par un recueillement extraordinaire de tous mes sens et puissances, Jésus-Christ, mon doux maître, se présenta à moi, tout éclatant de gloire, avec ses cinq plaies brillantes comme cinq soleils. Et de cette sacrée humanité sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son adorable poitrine qui ressemblait une fournaise. Et s'étant ouverte, me découvrit son tout aimant et tout aimable cœur, qui était la vive source de ses flammes. Ce fut alors qu'il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour et jusqu'à quel excès il l'avait porté d'aimer les hommes dont il ne recevait que des ingratitudes et méconnaissances. Ce qui m'est beaucoup plus sensible, me dit-il, que tout ce que j'ai souffert en ma passion. D'autant que s'il me rendait quelques retours d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux et voudrais, s'il se pouvait, en faire encore davantage. Mais ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. Mais, du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leurs ingratitudes autant que tu en pourras être capable. » Et lui remontrant mon impuissance, il me répondit « Tiens, voilà de quoi suppléer à tout ce qui te manque. » Et en même temps, ce divin cœur s'étant ouvert, il en sortit une flamme si ardente que je pensais en être consommée, car j'en fus toute pénétrée et ne pouvais plus la soutenir lorsque je lui demandais d'avoir pitié de ma faiblesse. « Je serai ta force, me dit-il, ne crains rien, mais sois attentive à ma voix et à ce que je te demande pour te disposer à l'accomplissement de mes desseins. » Premièrement, tu me recevras dans le Saint-Sacrement autant que l'obéissance te le voudra permettre, quelques mortifications et humiliations qui t'en doivent arriver, lesquelles tu dois recevoir comme des gages de mon amour. Deuxièmement, tu communieras de plus tous les premiers vendredis de chaque mois. Troisièmement, et toutes les nuits, du jeudi au vendredi, je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j'ai bien voulu sentir au jardin des olives, et laquelle tristesse te réduira, sans que tu la puisses comprendre, à une espèce d'agonie plus rude à supporter que la mort. Et pour m'accompagner dans cette humble prière que je présentais alors à mon Père parmi toutes mes angoisses, tu te lèveras entre 11 heures et minuit pour te prosterner pendant 1 heure avec moi, la face contre terre, tant pour apaiser la divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs, que pour adoucir en quelque façon l'amertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres, qui m'obligea à leur reprocher qu'ils n'avaient pu veiller une heure avec moi. Et pendant cette heure, tu feras ce que je t'enseignerai. Mais écoute, ma fille, ne crois pas légèrement à tout esprit et ne t'y fie pas, car Satan enrage de te décevoir. C'est pourquoi ne fais rien sans l'approbation de ceux qui te conduisent, afin qu'ayant l'autorité de l'obéissance, ils ne te puissent tromper, car il n'a point de pouvoir sur les obéissants.
Père Claude, la Colombière a dû prendre sûrement du temps pour intérioriser, méditer sur ces paroles de Jésus lui-même. Et comme je venais de le dire tout à l'heure, eh bien, il a trouvé comme moyen justement de répandre ce désir de cœur de Jésus à travers ses prédications et particulièrement durant ses méditations qu'il a fait les vendredis de carême, surtout hein, dans cette chapelle de Londres, sur la passion de notre Sauveur. Et en fait, il était peut-être peu soucieux des divers épisodes de la passion physique extérieure de Jésus. Il était beaucoup plus centré sur ce qui était intérieur. Ce prédicateur va aller au cœur, droit au cœur en fait, qui en est le centre et le foyer de toute cette passion en fait. Et donc c'est ainsi qu'il va introduire ses auditeurs, hein, la duchesse d'York et tous ceux qui étaient le petit groupe de catholiques hein, de Londres, les introduit pour contempler justement les vertus dont ce cœur est le modèle. Comment comprendre les souffrances du Christ sans pénétrer jusqu'à l'amour infini qui les inspira? Voilà le secret de Saint Claude dans ses premiers mois où il accomplit sa mission. Alors maintenant je pourrais vous donner quelques exemples simplement dans les minutes qui nous restent de ces méditations hein, qu'il faisait justement sur des différents moments de ces vertus hein, du cœur de Jésus. La pénitence hein, de Jésus lui-même, la charité de Jésus souffrant, la patience de Jésus souffrant, ou alors sur l'abnégation, le mépris du monde, le zèle même de ce cœur. Dans une des premières méditations consacrées à la pénitence de Jésus, Saint Claude nous présente Jésus au jardin, justement, de Gethsémani. Triste est mon âme, pâle, tremblant, abattu, suant le sang et l'eau, gémissant, criant, se prosternant. Il n'eut jamais de douleur pareille à cause du nombre des péchés, à cause qu'il en connaissait l'énormité, l'injustice, et parce qu'il aime infiniment Dieu et les hommes. Donc, Saint-Claude comprend plus grand était son amour envers Dieu et les hommes, plus grande était sa souffrance intérieure. Et donc du coup, il a vécu, Jésus, dans ce jardin des Oliviers, et, ben, toutes ses souffrances comme une pénitence justement pour leur salut. Et tout à l'heure, on va entendre d'autres textes, hein, de ces paroles de Saint Claude qui contemplaient Jésus. Et ben, il va nous guider durant l'heure sainte qui va commencer tout à l'heure. Un autre exemple, étudiant la charité de Jésus souffrant. Je cite, cette charité demande notre imitation. Saint Claude dit, prenons les sentiments de ce cœur tendre et généreux. Faisons résolution d'aimer les pauvres, de retrancher quelque chose de nos plaisirs. Si les riches faisaient cela, tout le monde dînerait. personne ne manquerait de pain. On ne mettrait pas de très honnêtes personnes en prison, faute d'avoir de quoi payer le lit où elles se couchent. Car, monsieur, il y a des misères de toutes ces manières. Informez-vous-en. Ouvrez les yeux, quoi. Regardez autour de vous. Alors, Georges Guiton rajoute, bien que les écuries de course n'eussent pas alors, au bord de la Tamise, donc en pleine Londres, atteint le confortable de celle d'aujourd'hui, Claude ajoutait, vos chevaux, monsieur, s'il m'est permis de le dire, sont incomparablement mieux logés que Jésus-Christ. Un autre exemple. Pour admirer la patience de Jésus souffrant, Saint Claude se fait plus pressant encore. Il dit, entrons dans le cœur du Fils de Dieu et voyons quelle est sa disposition à l'égard de ses ennemis. Premièrement, il les excuse. Ce cœur plein de bonté s'attache plutôt à ceux qui diminuent le péché qu'à ceux qui le rendent coupable. Deuxièmement, il est touché d'une véritable compassion. Véritable compassion. Mais c'est vrai, hein. Un cœur blessé sait ce que c'est qu'un cœur blessé de son prochain. Il devient compatissant, il souffre avec, quoi, voyez. Troisièmement, il est touché d'amour à leur égard. Il prie pour eux. Et il suffit de penser aussi à la croix. Hein. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, toute la cette méditation se poursuit dans ce sanctuaire intime, dans le cœur même de Jésus, à l'intérieur de sa personne. Puis, en terminant, Saint Claude dit que le cœur de Jésus soit notre école durant ce carême. Nous, on peut dire durant toute notre vie. Et tâchons d'y conformer le nôtre. Oui, divin Jésus, je veux m'y loger. Là, je m'exercerai au silence, à la résignation à votre divine volonté, à une constance invincible. Et alors, dans les autres méditations, pareil, il continue dans la même ardeur et même insistance et comme une sorte d'obsession, cette plainte de Jésus qu'on vient d'entendre ici, à part l'émonial, sur l'ingratitude des hommes, ça le bouleverse totalement. Il se rappelle de cette parole de l'Écriture qui dit « Qu'est-ce que j'ai pu faire à ma vigne et je n'ai pas fait ? Puisque je vous trouve aujourd'hui à me disputer des bagatelles, vous ne ferez donc jamais rien par amour ? Jusqu'à quand vous entendrez-je me dire « Il n'y a point de péché mortel, je ne suis donc pas obligé ?» Et Jésus, était-il obligé de mourir pour nous ? Quand l'élite des auditeurs fut ainsi préparée à méditer la passion par l'intérieur, la colombière, usant de la même méthode en la solennité du Vendredi Saint, convia toute l'assemblée. On connaît le Vendredi Saint de 1677. Il convia toute l'assemblée, plus compacte, plus nombreuse ce jour-là, à se représenter surtout les douleurs secrètes endurées par Jésus-Christ. Il dit ceci, « Les afflictions du cœur sont beaucoup plus communes que celles du corps. » Et c'est exactement ce que Jésus disait à Marguerite Marie tout à l'heure, vous l'avez entendu. « Il y a des conditions où l'on a peu à souffrir à l'extérieur. Mais ni les richesses, ni le trône même, il parlait à la cour, ni le trône même ne saurait défendre l'âme de la tristesse, ni des autres passions qui la plongent dans l'amertume. S'il est vrai que Jésus ait voulu porter toutes nos douleurs, il a eu le cœur beaucoup plus chargé que le corps. Cette oppression qui est produite par les crimes de l'univers, À Gethsémani, dit Saint Claude, quand je me souviens qu'il avait devant les yeux non seulement toutes les rigueurs que l'on devait exercer sur lui, mais encore tous les péchés qui avaient été commis jusqu'alors contre Dieu et tous ceux qui devaient être commis jusqu'à la fin du monde, je suis persuadé que cette mortelle frayeur, cette sueur sanglante, cette agonie n'exprime qu'une petite et très petite partie de l'affliction de son cœur. Peine secrète et cruelle, que les souffrances extérieures étaient un remède ou du moins un soulagement pour son cœur brisé de compunction. Ô douleur inconcevable, ô incroyable amertume du cœur de Jésus qui le rend insensible à de si grands maux, qui trouve même dans ces maux une espèce d'adoucissement. Plus loin dans le même sermon, il dit « L'affliction de votre cœur est un océan d'affliction dont la seule vue m'effraie et m'accable de tristesse. » Et pour conclure, au nom de tout son auditoire, il dit « Mon Dieu, c'est à ce cœur affligé que je veux donner toute ma tendresse. » Eh bien, essayons nous-mêmes, en vivant maintenant cette heure sainte, guidée par Saint Claude, tout simplement, paisiblement, humblement, de répondre à cet appel du cœur de Jésus ici. C'est, nous voyons, une des premières manières à devenir des apôtres, en fait, aussi nous-mêmes, de ce cœur de Jésus qui veut répandre, voilà, l'amour partout et qui veut se faire connaître, en fait. Donc, vous qui êtes peut-être pèlerin ou en session ici, eh bien, en rentrant chez vous, demandez au Seigneur de vous éclairer comment est-ce que vous pouvez proposer ce moment, l'heure sainte, voilà, à vos amis, vos voisins, peut-être à votre paroisse. Vivons là d'abord nous-mêmes personnellement et puis invitons d'autres personnes à venir bénéficier de ce grand trésor qui est confié à l'Église entière.